France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Sacha Mattei, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre, à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. Des élections fédérales anticipées se tiendront en Allemagne le 23 février, provoquées par la chute de la coalition en novembre. Et ce sont toutes les certitudes d'une nation qui vacille. Nous avons parlé lundi des enjeux politiques du vote avec l'AFD, un extrême au centre du jeu. Hier, du poids de la fracture sociale. Aujourd'hui, la transition énergétique dans le rouge.
Nous voulons nous débarrasser du charbon et du nucléaire. C'est bien en matière de développement durable et de lutte contre les changements climatiques, mais c'était trop tôt, trop rapide. Nous sommes trop dépendants du gaz, particulièrement du gaz russe.
Les Verts ont fait des compromis douloureux qui auraient été impensables il y a quelques temps. On peut citer l'agrandissement de la mine de lignite de Lützerath, mais aussi le durcissement des règles sur l'immigration. Je crois qu'à l'avenir, les Verts devront défendre davantage leur ADN, autrement dit, les droits humains, la lutte contre le réchauffement climatique ou les problématiques sociales.
Le parti qui m'énerve le plus, c'est les Verts. S'ils savaient toutes les difficultés qu'on a ici depuis ces dernières années, vous pouvez même pas imaginer. On n'en peut plus d'être harcelé, acculé, encore et encore. Cette fois, le vase a débordé.
Le vase a débordé, les pots d'échappement aussi. Un matin, alors qu'il devait se rendre au travail ou à un rendez-vous, des Allemands dans une petite commune de Bavière, une autre dans le Bade-Wurtemberg ou encore dans une seule et même rue d'une banlieue de Berlin. Ces Allemands donc sont montés dans leur voiture, ne se doutant de rien, et ce n'est qu'en essayant de démarrer le moteur qu'ils s'en sont rendus compte. Des petits malins avaient mis de la mousse expansive dans les tuyaux d'échappement. Pas juste une pomme de terre ou un vieux poisson, comme savent le faire tous les lecteurs du journal de Mickey. Non, de la mousse expansive. Et sur le pare-brise ou sur les vitres arrière, un tract avec le visage du candidat des écologistes aux élections fédérales, Robert Habeck. « Soyez plus verts », disait le message placardé sur ce sourire débonnaire qui se payait décidément leur tête. De quoi attiser la colère contre les Grünen, sauf que la semaine dernière, on apprenait que la justice allemande enquêtait sur ces sabotages, avait déjà entendu 4 suspects, dont l'un dit avoir agi sur commande d'un interlocuteur russe, moyennant 100 euros. Par voiture endommagée. De quoi corroborer les alertes lancées par l'Office fédéral pour la protection de la Constitution contre de possibles ingérences étrangères pendant la campagne. Reste que les Verts sortent essorés par leurs 3 années aux manettes avec le SPD et les libéraux dans la coalition tripartite qui a implosé en novembre. Déjà très critiquée pour différentes mesures, la fin des subventions au diesel agricole ou le remplacement de toutes les chaudières au fioul, eux veulent mettre en avant les progrès de l'Allemagne dans sa transition énergétique et la réduction importante des émissions de CO2. Bonjour Michel Dehaye.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes géographe, professeur à l'université de Lorraine et vous êtes en duplex ici depuis ici, Sud-Lorraine, à Nancy. Bonjour Annette Lensing.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes maîtresse de conférence en études germaniques à l'université de Caen-Normandie et vous êtes en duplex depuis ICI Armorique à Rennes. Je rappelle que ICI Armorique, ICI Sud-Lorraine, ce sont les nouveaux noms pour France Bleu Sud-Lorraine et France Bleu Armorique. Alors Annette Lensing, vous connaissez particulièrement bien pour les étudier depuis plusieurs années les Grünen, les Verts allemands. Sous quels auspices se tiennent les élections du 23 pour eux en particulier qui ont été, c'est vrai, assez absents de nos 2 premiers épisodes?
Je dirais que la situation était meilleure en 2021 qu'actuellement. Donc, ils sont à peu près crédités de 13 à 14% dans les sondages. Ce qui est pas mal parce qu'ils ont fait 14,8% en 2021. Donc, on pourrait se dire que, voilà, l'écart n'est pas énorme. Mais c'est vrai qu'il y a une épée de Damoclès qui plane au-dessus de leur tête vis-à-vis des différentes casseroles qui traînent effectivement dans cette campagne, dont la Heizungsgesetz, dont vous avez parlé. Donc, sur la suppression donc des chaudières à gaz et au fioul, donc le remplacement. Donc c'est vrai que c'est un départ un peu difficile.
Un départ difficile. Alors vous le dites, les sondages annoncent les Verts autour de 13%. Il y a lors des précédentes élections fédérales en 2021, les sondages s'étaient trompés. Les créditaient de 25%. Finalement, ils avaient fait un peu moins de 15%. Les élections européennes de juin dernier ont été très décevantes aussi pour les Verts qui n'ont pas atteint les 12%. Et dans les Länder, à l'échelle régionale, comment s'en sont-ils sortis, Annette Lensing?
Oui, tout à fait. L'année 2024 a été une année noire du point de vue électoral. Donc, à commencer donc par les élections européennes où ils ont fait effectivement un peu moins de 12%. Donc, c'était vraiment catastrophique par rapport au scrutin précédent. Donc, en 2019, ils avaient fait encore 20,5%. Donc, c'est vrai qu'il y avait une réelle vague verte qui avait porté les Verts, qui historiquement sont vraiment portés par les mouvements sociaux. Donc là, en l'occurrence, la mobilisation de la jeunesse dans le cas de Fridays for Future. Et la même chose s'est reproduite donc lors des élections donc dans les Länder à l'est de l'Allemagne, où ils ont été sortis donc notamment du Parlement de Thuringe. Donc ils ont fait des résultats très très bas, donc autour de 5%,
voire 3% en Thuringe, 3%, et dans le Brandenburg.
Tout à fait, entre 3 et 5%. Et c'est vrai que ils ont clairement perdu du terrain, donc aussi auprès de la population de l'est de l'Allemagne, auprès du monde rural plus particulièrement. Parce que cette image de parti de l'interdit, d'une écologie punitive, a refait surface.
Donc l'écologie punitive, c'est un débat qui a gagné, y compris l'Allemagne, pays au contraire pionnier en la matière, les premiers à recycler les déchets, les premiers sur beaucoup de choses. Mais le green bashing, comme on dit aujourd'hui, a vraiment gagné les Verts en Allemagne, progressivement. Comment vous avez vu naître tous ces débats-là ?
Oui, tout à fait. Alors si on retourne un petit peu en arrière, c'est vrai que déjà en 2013, les Verts avaient voulu faire passer l'introduction d'une journée sans viande dans les entreprises et les cantines scolaires, donc ce qui avait provoqué un tollé. Donc c'est vrai que régulièrement cette question-là revient. Là, dans le contexte actuel, il faut le voir surtout face aux crises qui traversent l'Allemagne, dont la stabilité sociale, économique, politique est remise en question. Et qui nourrit justement ce green bashing, alors qui devient en partie très virulent. Donc les Verts sont ceux qui font l'attaque, qui font l'objet des attaques les plus importantes de la part de l'extrême droite notamment. Donc c'est un green bashing qui, on va dire, qui revient régulièrement, mais qui a une virulence particulièrement forte en ce moment.
Pas seulement d'ailleurs de la part de l'extrême droite. Vous rappeliez dans un long article pour la revue L'Allemagne d'aujourd'hui que quand le gouvernement sur la pression des Verts avait annoncé vouloir contraindre les communes et les Länder à adopter des plans de chauffage, comme on dit, les chrétiens démocrates à l'époque, donc la CDU, en Thuringe, avaient appelé à mettre fin à la folie du chauffage de Robert Habeck, le ministre de l'Environnement, un Vert. Robert Habeck qui, selon les chrétiens démocrates de Thuringe, voudrait créer une Stasi de l'énergie pour regarder dans la cave des gens comme dans un état espion. Donc ces attaques, elles venaient vraiment de toutes parts de la classe politique.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que là, dans le cadre de la prise de responsabilité gouvernementale, dans le cadre de la coalition Feu Tricolore, c'est vrai que ce sont les Verts qui en ont fait l'objet, qui en ont fait les frais, donc des attaques de la part de la CDU, aussi de la part des libéraux. Donc c'est-à-dire que les Verts ont vraiment été challengés sur leur volonté de montrer que le redressement économique, le pouvoir d'achat allait de pair avec la transition énergétique. Donc ils n'ont pas réussi à convaincre là-dessus.
Ils n'ont pas réussi à convaincre, ils ont quand même connu certaines victoires et on peut les rappeler brièvement, notamment le fait d'avoir participé à la coalition Feu Tricolore là jusqu'en novembre quand il y a été mis fin, mais c'était leur deuxième participation à gouvernement fédéral dans l'histoire après leur coalition avec les sociodémocrates de Gerhard Schröder entre 1998 et 2005. Ils ont aussi fait de très hauts scores dans des élections locales, que ce soit dans le Schleswig-Holstein, donc dans le Nord, 18,3%. Ils ont multiplié par 4 leur score précédent en Rhénanie du Nord-Westphalie, 18,2%. On pourrait se demander, Annette Lensing, pourquoi n'ont-ils pas été en mesure d'imposer leur thème sur les questions climatiques, les questions énergétiques dans la campagne? Après tout, si certaines idées de l'AFD, donc l'extrême droite, ont infusé un peu partout sur le reste de l'échiquier politique, comme on le disait lundi, pourquoi pas les idées des Verts, qui représentent quand même 13-14% des électeurs minimum?
Oui, je pense qu'il y a sans doute différents facteurs qui entrent en jeu. Je pense que d'un côté, c'est vrai que les Verts ont été créés il y a 45 ans maintenant, en tant que parti contestataire qui tranchait radicalement avec la politique, les pratiques des partis établis. Pour les Verts, par exemple, l'arrêt du nucléaire fait partie des premières revendications historiques. C'est un parti qui s'est déradicalisé au fil de la prise de responsabilité gouvernementale, donc à l'échelle fédérale, comme vous l'avez rappelé, mais aussi au niveau des régions. Et ce qui fait que les revendications vertes, donc à mesure que le parti s'est lui-même transformé, normalisé, ont aussi fait leur chemin dans la société, ont été reprises aussi par les autres partis, si bien qu'ils perdent en spécificité. À cela s'ajoute le fait que il y a sans doute une certaine lassitude sur le manque. Alors certes, il y a des progrès qui ont été faits, mais il y a une certaine lassitude aussi vis-à-vis des politiques qui sont menées. Donc lassitude qui est notamment portée par la jeunesse qui ne se reconnaît plus forcément dans ce parti qui n'est plus assez radical, donc qui est trop normalisé. Donc peut-être une lassitude aussi qui s'inscrit dans un contexte de crise. Mmh. Donc là aussi la crise du Covid, la guerre en Ukraine, la crise énergétique qui s'en est suivie, donc qui donne finalement peu de place aux problématiques environnementales et climatiques, quand bien même l'année 2024 a été de nouveau une année de tous les records en termes de réchauffement climatique. Donc il y a effectivement ce paradoxe.
Encore peut-être une question avant de me tourner vers Michel Dehaye. Annette Lensing, est-ce qu'on peut le plus sereinement et le plus justement possible mesurer si ce désaveu des Verts est lié à une ambiance générale aussi, alors vous parliez de ce contexte de crise, mais aussi une ambiance générale de défiance et de polarisation de toutes les discussions politiques, ou à des maladresses des Verts au niveau fédéral ou local, des mesures, des projets mal ficelés, ou mal présentés, ou mal expliqués?
Je dirais les deux. Donc il y a effectivement des maladresses, alors notamment de la part des figures de tête des Verts, donc aussi de la part de Habeck, donc auquel on a reproché un certain dirigisme, un paternalisme.
Donc Robert Habeck qui était ministre de l'Environnement et qui se présente aujourd'hui tête de liste des Verts pour les élections.
Ministre de l'économie et du climat.
De l'économie et du climat.
Oui.
Et pardon, je vous laisse continuer ce que vous étiez en train de dire.
Oui, et dans le même temps, il y a aussi effectivement une ambiance qui ne se prête pas à ces questions, donc qui n'est pas favorable effectivement à ces sujets en ce moment.
Avec aussi des scandales, le secrétaire d'État Patrick Greichen qui a dû démissionner quand on a appris qu'il avait facilité la nomination de son témoin de mariage à la tête de l'Agence allemande de l'énergie. Des scandales ou des révélations aussi sur la question du nucléaire, on en parlera tout à l'heure. Donc une écologie punitive, c'est un terme aujourd'hui qu'on entend en Allemagne, encore une fois dans un pays qui pourtant a été très longtemps pionnier, où la jeunesse, encore très récemment, manifestait tous les vendredis pour le climat, où on avait l'impression, Michel Dehaye, d'une véritable prise de conscience et du sentiment d'urgence en Allemagne. C'est d'autant plus surprenant ce renversement, Michel Dehaye, que notre voisin donc a longtemps été à la pointe de l'Energiewende. C'est un terme qui apparaît, la transition énergétique, qui apparaît en 1980. Comment est-ce qu'on se représentait à l'époque? Comment est-ce qu'on projetait cette transition?
Alors, au début des années 80, effectivement, dans une publication, on envisageait à l'époque de se passer en fait du pétrole et surtout du nucléaire, effectivement, en recourant aux énergies, alors je crois qu'on disait alternatives, donc qui sont devenues renouvelables, mais en fait, en réalité, l'essor des énergies renouvelables, véritablement, ça ne s'est fait que à partir du début des années 2000, hein, quand il y a eu la loi sur les énergies renouvelables. Alors, je crois que, en fait, le problème de l'Energiewende allemande, c'est qu'elle se heurte à un certain nombre de réalités physiques, dans le sens où la priorité, finalement, qui a été avec la loi sur les énergies renouvelables, en même temps que la loi de sortie du nucléaire sous le gouvernement de Gerhard Schröder, la priorité, ça a été de sortir du nucléaire. Et finalement, beaucoup plus récemment, où on a envisagé finalement de sortir du charbon et du lignite. Alors, quand on regarde les résultats, c'est vrai qu'il y a des résultats qui sont très impressionnants, surtout quand on compare, par exemple, avec la France, où on voit que au début des années 2000, il y avait très peu d'énergie renouvelable en Allemagne, puisque c'était de l'hydroélectricité. Alors, il y avait déjà un peu d'éolien, mais c'était encore relativement limité. Et on est passé jusqu'à aujourd'hui à une accélération de ces énergies renouvelables, l'éolien principalement, le solaire, alors qui d'ailleurs dans les dernières années a progressé beaucoup plus vite. Et l'année dernière, on était à pratiquement 60% d'énergie renouvelable dans la production d'électricité.
Hein, alors 60% contre 42% en 2021, donc il y a eu une accélération.
Oui, tout à fait. Alors, il y a une accélération. En fait, ce qu'il faut voir, ce que j'ai expliqué aussi, c'est que dans les dernières années, depuis justement, finalement, si on compare avec 2019, hein, qui est la dernière année, si je puis dire, en quelque sorte normale, vous avez eu une forte baisse de la production d'électricité. Qui est lié à l'évolution économique et puis aussi à un certain nombre de choix. Donc, ce qui fait que la part des renouvelables a beaucoup augmenté. Alors, à la fois parce que effectivement, il y a eu une accélération, notamment plus du solaire, hein, d'ailleurs, que de l'éolien dans les dernières années, mais aussi parce que au total, la production d'électricité a fortement baissé. Hein. Elle est en 2023, elle était plus que de 505 terawatt-heure, hein, c'est-à-dire milliards de kilowatt-heures, alors que, par exemple, encore en 2018-2019, on était à 600, 620 milliards, vous voyez, donc c'est aussi le produit de cela.
Mais est-ce qu'on peut imaginer, est-ce qu'on a une idée du rôle qu'a joué la coalition sortante dans cette transition? Alors, on a bien entendu que si les émissions de CO2, oui, et notamment en 2023, ont été très 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 basses, baisse de 10%, même un peu plus de 10%, la plus forte, paraît-il, depuis la réunification, oui, de l'Allemagne, c'est aussi dû à une certaine crise économique en Allemagne, donc il y a eu un ralentissement. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le compte de la coalition, de décisions politiques qui ont été prises depuis 2021?
Bon. Bah, très clairement, ce que l'on a vu, c'est une très forte accélération du solaire, puisque par exemple, par rapport à 2019, vous avez eu une augmentation de 50% des capacités solaires, hein, et l'accélération, c'est vraiment vraiment avec la coalition. L'éolien, lui, il est beaucoup plus... Alors, il a repris un petit peu aussi d'importance, mais il est plus du tout au niveau, par exemple, qu'il y avait dans les années 2014, 2015, 2016, où il y avait une évolution plus rapide. Et en fait, la coalition, dans l'accord de coalition de 2021, il y avait des objectifs... alors, extraordinaire, moi, que je juge un petit peu utopique quelque part, dans le sens où ils ont fixé pour 2030 un objectif de 115 gigawatts d'éolien terrestre et de 215 gigawatts de photovoltaïque, en sachant que actuellement on est à 97, hein, pour le solaire et à 66 pour l'éolien terrestre. Donc ça voudrait dire, en fait, quand ils sont arrivés au pouvoir, c'était l'idée de doubler l'éolien terrestre, donc quand même en très peu de temps, et de multiplier pratiquement par 3,5 le solaire. Donc il y avait ces objectifs très très ambitieux.
Donc ça, c'est l'électricité produite en, oui, Allemagne, et dont vous dites, oui, qu'aujourd'hui elle est produite à 60% avec, oui, des renouvelables. Il y a aussi tout ce que l'Allemagne importe d'électricité, c'est assez nouveau, oui, d'ailleurs, qu'elle importe assez, oui, massivement, et là c'est plus difficile de connaître l'origine de cette électricité. Et donc là, on se concentre sur la production d'électricité, mais quelle est la part cette fois de l'électricité dans la consommation d'énergie finale, ah bah voilà, totale. Voilà, le mix énergétique.
Voilà, bah le problème, c'est que l'électricité, finalement, dans la consommation énergétique finale, ça doit représenter au maximum 25% de la consommation d'énergie, hein, au total. En sachant, alors justement, ça c'est ce que j'expliquais aussi dans l'article, quand on regarde les données, finalement, au total, hein, en 2024, là j'ai regardé les dernières données, les énergies renouvelables ça représente à peu près 20% de la consommation d'énergie. Hein. Consommation, là c'est la consommation primaire, hein, 20%. Donc si on prenait la consommation finale, ce serait un petit peu plus, mais bon, ça changerait pas grand-chose. Et alors surtout, c'est là où je dis où il y a une réalité physique à laquelle cette Energiewende se heurte. Quand vous regardez finalement la consommation d'énergie qui est essentiellement la production de chaleur à partir d'hydrocarbures, donc le pétrole, le gaz. Finalement, vous avez en quantité d'énergie. Alors, elle a baissé en fait depuis 2019, mais c'est directement lié à la baisse de la consommation à la fois de l'industrie et aussi de la consommation domestique. Mais autrement, en réalité, par exemple, en 2019, l'Allemagne consommait autant d'hydrocarbures que, par exemple, au milieu des années 90. Hein. Donc, en réalité, si vous regardez ce qui représente toujours l'essentiel de la consommation d'énergie, jusqu'aux dernières années où on observe cette baisse, donc qui est quand même liée directement aux réalités économiques, on n'avait pas de baisse, l'Energiewende n'avait pas permis de faire baisser la consommation d'hydrocarbures. Là, il y avait simplement moins de pétrole, plus de gaz. Voilà, c'est ça la principale différence.
Donc, logement, transport, les industries sont des secteurs encore très peu électrifiés, très énergivores et très dépendants des hydrocarbures, que ce soit le gaz ou le pétrole. Alors, Annette Lensing, quand les Verts ont pris pendant le mandat de cette coalition sortante, ont en tout cas poussé à ce que le gouvernement prenne des mesures très impopulaires, que ce soit la loi sur le chauffage au fioul en 2023, une loi qui initialement prévoyait que soient remplacées toutes les chaudières au gaz et au fioul par des systèmes qui fonctionnaient à 65% à partir d'énergies renouvelables qui coûtaient très cher. Cette mesure a finalement été retirée sous la pression des libéraux du FDP et n'a plus concerné que les nouveaux bâtiments. Mais il y avait aussi cette mesure tout aussi impopulaire qui a fait manifester en masse les agriculteurs l'année dernière, c'était supprimer les subventions au diesel agricole. Est-ce que c'était des raisons écologiques portées par la coalition à l'époque, ou économique? Fin des subventions, c'est quand même des dépenses en moins pour le gouvernement.
Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a un peu des deux, sachant que dans le contexte allemand, c'était davantage des raisons économiques, je dirais, qui ont été centrales à ce moment-là. C'est vrai que c'était dans un contexte compliqué de manière générale, parce que il faut rappeler aussi que la Cour constitutionnelle en novembre 2022 avait invalidé le montage budgétaire qui avait été effectué par le gouvernement pour contourner le frein à la dette, la Schuldenbremse, ce qui a creusé un trou de près de 60 milliards d'euros dans le budget de l'État. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus que des décisions ont été prises, mais aussi dans un contexte extrêmement tendu, compliqué, qui pousse les écologistes notamment à accepter des compromis. Je pense aussi par exemple à la suppression des aides à l'achat de voitures électriques. Donc qui est un autre secteur duquel il faut parler, donc sur lequel ils aimeraient revenir. Donc ça fait partie d'une de leurs revendications de campagne aussi.
On en parlera pendant le focus. En tout cas, ces suppressions de subventions au diesel avaient attisé la colère contre les Grünen et contre toutes les normes, y compris environnementales.
C'est 30 000 euros qui s'envolent pour moi. Ce serait vraiment une catastrophe pour nous si cet argent ne rentrait plus. On perdrait en compétitivité sur le territoire européen. Tous les autres autour de nous dépensent moins pour faire le plein. Tu as vu les Français ?
Oui, ils sont un peu plus radicaux que nous.
Ils ont cassé la route avec un marteau-piqueur.
Oui, j'ai vu. C'est plus efficace qu'un barrage de tracteur.
Et t'as vu comment ils se débarrassent de leurs pneus ? Ils les brûlent sur la route.
Des témoignages de colère recueillis à l'époque, c'était en mars 2024 par TV5 Monde. Annette Lensing, est-ce qu'on peut faire crédit aux Verts néanmoins d'avoir, à chaque fois qu'ils proposaient ces mesures qui peuvent être qualifiées de punitives par ceux qui vont devoir payer en quelque sorte, ou ne plus être aidés en tout cas financièrement, est-ce qu'on peut faire crédit aux Verts d'avoir voulu à chaque fois compenser les difficultés économiques générées par ces mesures en plaidant pour différentes autres aides, que ce soit l'augmentation du salaire minimum ou de différentes allocations?
Oui, tout à fait. Je dirais que sur le plan social, en tout cas, il y a un certain nombre d'avancées qu'on peut mettre au compte, effectivement, sur le compte de la coalition feu tricolore. Donc, des avancées sur le plan de l'agenda énergétique dont vous parliez tout à l'heure, sur le plan social. Donc, effectivement, il y a aussi un certain nombre d'acquis sur lesquels ils entendent aussi capitaliser lors de la campagne, mais qui sont finalement peu audibles. Ils essayent très clairement dans le discours actuel, dans la campagne actuelle, de vendre la modernisation du pays en essayant vraiment de cibler finalement les électeurs auprès desquels ils ont largement perdu des voix, donc notamment les personnes à revenus faibles et modestes, notamment reconquérir aussi les territoires à l'est de l'Allemagne. Donc, par exemple, pour ils ont réitéré leur engagement donc en faveur de la fin du moteur thermique dont vous allez parler aussi tout à l'heure. J'imagine donc ils veulent encourager la mobilité électrique en essayant aussi de montrer voilà que ce discours-là s'adresse non seulement à une population aisée urbaine mais aussi aux populations rurales.
Parce qu'en attendant, est-ce que les contestations, les colères générées par des mesures prises sur la pression des Verts ont été récupérer politiquement, est-ce que les scores de l'AFD, par exemple l'extrême droite, se lisent en négatif des scores des Verts ? Les voix perdues par les Verts vont à l'AFD ou c'est plus compliqué que ça ?
Je dirais qu'il y a un peu des deux, donc en partie oui. Si on regarde le vote des jeunes, effectivement, il y a eu un report des suffrages lors des européennes, par exemple. En juin 2024, il y a eu un report effectivement des voix des jeunes d'un vote écologiste vers un vote AFD. Donc effectivement, il y a une polarisation qui traverse le pays, qui se rejoue aussi au niveau des jeunes, avec une génération effectivement du tout ou rien, sachant que sur le plan de la transition énergétique, c'est vraiment l'AFD qui s'oppose le plus fortement aux écologistes autour de l'objectif de la neutralité carbone en 2045. Il y a quand même un consensus relativement large dans le paysage politique allemand, donc à l'exception de l'AFD, donc qui nie la responsabilité humaine dans le changement climatique. Donc c'est vrai qu'il y a effectivement un négatif. Effectivement, les scores de l'AFD peuvent se lire en négatif de ceux des écologistes qui eux se positionnent aussi, donc que ce soit sur les questions écologistes, mais aussi sur l'agenda social, sur la question migratoire, essayent de se positionner aussi comme rempart contre l'AFD.
On sait aussi que les reports de voix, tous ceux qui ne votent plus pour les Verts, les Grünen, bénéficient à d'autres partis comme la CDU, le parti de l'abstention aussi, beaucoup. C'est toujours difficile d'être très précis sur ces questions-là, mais en tout cas, ce sont des études que vous avez pu mener, Annette Lensing, et donc une récupération politique aussi d'une certaine exaspération, par exemple, quand ont été installées des dizaines d'éoliennes dans cette commune de Warkolzhausen en Bavière.
Notre municipalité ne peut plus attribuer de permis pour de nouvelles zones résidentielles à cause des deux parcs éoliens prévus. Le résultat final est que je ne peux plus obtenir de terrain à bâtir.
1700 personnes ont signé notre pétition. 80% des habitants de cet endroit, Warkolzhausen, s'opposent à l'énergie éolienne.
Warkolzhausen sera totalement entouré d'éoliennes, chacune d'une hauteur de 200 mètres. Nous nous sentons envahis.
Nous craignons que nos maisons perdent de la valeur lorsque ces 23 éoliennes seront construites autour de nous.
Est-ce que ces oppositions, vous les entendez, Michel Day, un peu partout en Allemagne et pas seulement ici en Bavière, à chaque fois qu'il est question d'installer des éoliennes, des panneaux photovoltaïques ou tout ce qui contribue à produire des énergies renouvelables ?
Oui, bah, et en fait, il y a une multiplication, enfin depuis déjà assez longtemps, hein, de mouvements opposés aux éoliennes, alors qu'on peut comprendre d'ailleurs quand on regarde un peu le paysage, c'est en fait ça concernait quand même principalement l'Allemagne du Nord, hein, puisque vous aviez grosso modo, vous avez encore d'ailleurs plus des deux tiers des capacités installées qui sont en Allemagne du Nord, avec des régions où vous avez effectivement, vous pouvez avoir sur des superficies relativement petites, parfois plusieurs centaines d'éoliennes. En Allemagne du Sud, à part la Rhénanie-Palatinat, où il y avait aussi une forte progression des éoliennes, hein, par exemple dans la région de Mayence, hein, par exemple, les Länder du Sud, les deux Länder du Sud, qui sont le Bade-Württemberg et surtout la Bavière, jusqu'à présent avaient été relativement épargnés. C'était de très loin ceux où il y avait finalement la moins forte densité d'éoliennes. Et alors, même en Bavière, où il y avait vraiment une réticence peut-être qui était la plus forte, il y avait une loi qui avait été mise en place, qui est ce qu'on appelait la loi des 10 H, hein, c'est-à-dire qu'on pouvait pas installer d'éoliennes à moins de 10, enfin par rapport aux habitations, aux villages, à moins de 10 fois la hauteur des éoliennes, c'est-à-dire 2 kilomètres. Et quand vous regardez ça sur une carte, évidemment, avec cette loi, cette disposition, ça faisait quasiment pas d'espace. Hein. Et effectivement, il y en avait très peu, à part un peu dans le nord de du Land de Bavière. Alors ça a été aboli, hein, cette disposition, justement, avec le début de la guerre en Ukraine et où effectivement il a été question de renforcer l'effort et puis de, comment je dirais, d'impliquer aussi les lenders du Sud. Donc ce qui fait que ce que vous citez là comme exemple, c'est effectivement pour les Bavarois, je pense, pour en tout cas pour une partie des gens en Bavière, quelque chose d'assez nouveau, de voir tout d'un coup des projets éoliens qui se développent. Hein.
Et est-ce que la sortie du charbon est toujours prévue pour 2038, Michel Dès? Les Verts voulaient 2030.
2030.
Alors je croyais qu'ils n'avaient pas obtenu gain de cause justement sur ce point, les Verts, que eux poussaient pour que ce soit 2030.
Oui. Ben, en fait, alors là, j'ai pas suivi les derniers développements de politique, mais effectivement, 2038, c'était le gouvernement de Angela Merkel qui avait mis ça en place, et la coalition, ils étaient tombés d'accord initialement sur 2030, avancer la sortie du charbon. Je crois que de toute façon, ça sera pas possible, hein, dans le sens où en fait, c'est le charbon et le lignite, hein, qui est extrait en Allemagne. C'est encore, malgré tout, à peu près un quart du courant aujourd'hui qui est produit avec cette ressource. Autrement, vous avez le gaz. Mais le gaz, finalement, bon, ce qu'on comprend bien, il n'a pas du tout progressé, hein, pour la production d'électricité. Donc, lui, il reste stable et on ne voit pas trop dans le contexte actuel comment il pourrait progresser. Parce que, en réalité, si vous revenez au projet initial de Gerhard Schröder, la loi à la fois de sortie du nucléaire et... lui, il ne parlait pas de sortir du charbon, hein. Mais il voulait sortir du nucléaire. En fait, c'était remplacer le nucléaire soit effectivement par des énergies renouvelables, mais aussi par le gaz importé de Russie, d'où les accords avec sur Nord Stream. Hein. Et le Nord Stream 2, qui a été après... voilà, le gazoduc, oui, bien sûr.
Transportant du gaz russe.
Voilà, j'ai oublié de préciser, effectivement. Donc Nord Stream 2, en fait, qui finalement est décidé avec sous Angela Merkel... c'était l'objectif de là on pouvait sortir du charbon en le remplaçant par le gaz de Russie, hein, puisqu'il était à ce moment-là aisé, si je puis dire, de remplacer les centrales à charbon, enfin aisé avec un certain nombre d'investissements quand même, mais c'était possible techniquement de remplacer intégralement le charbon, donc en faisant monter les renouvelables, mais aussi en recourant davantage au gaz. Hein. Et ce qui fait d'ailleurs baisser les émissions, puisque quand vous utilisez du gaz à la place du charbon, vous émettez par kilowattheure produit 2 fois moins de dioxyde de carbone. Donc alors ça n'a pas été évoqué aussi clairement, mais Madame Merkel avait quand même dit, je crois, au Forum économique mondial, que en 2019, d'ailleurs, je crois, qu'il fallait recourir de plus en plus au gaz, hein, pour remplacer le charbon.
Alors là, ça fait vraiment débat, et donc votre position en est une parmi d'autres en Allemagne, et donc tout ça génère des débats. Sur la sortie du nucléaire, en revanche, est-ce que cette sortie du nucléaire, qui a été actée en 2023 avec plein de rebondissements, vous rappeliez que c'était à l'époque Schröder qu'on en avait décidé, puis la CDU était revenue dessus quelques années plus tard, on a remis sur la table cet objectif-là, et donc depuis 2023, toutes les centrales ont fermé. Qui, à part l'AFD, donc l'extrême droite, aujourd'hui en Allemagne, dit qu'il faut relancer le nucléaire?
Oh, je crois pas, personne n'évoque cela, effectivement, puisque, en fait, ça a été terminé. Ce qu'on peut remarquer, c'est que, alors c'est pas forcément directement uniquement cela, mais moi qui regarde un petit peu ces faits de près, les statistiques en particulier, ce qui est assez frappant, c'est que quand ils ont fermé les deux derniers réacteurs nucléaires, donc qui produisaient plus énormément, mais enfin quand même, en avril 2023, à ce moment-là, l'Allemagne s'est mise à importer de grandes quantités d'électricité. Et ça a continué jusqu'à maintenant. Par exemple, là, depuis le début de l'année, un jour sur deux, hein, quand on fait la moyenne, ils importent de grandes quantités de courant et des fois, ça peut représenter entre 10 et 20% de la consommation.
Sans qu'on sache si le lien de cause à effet est, complètement établi avec la sortie du nucléaire.
Oui, c'est plus compliqué que ça. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez expliqué, je crois, tout à l'heure, alors ce qu'on peut observer aussi, c'est que l'Allemagne, non seulement est sortie du nucléaire, mais a réussi, en quelque sorte, à diminuer fortement l'utilisation du charbon. Hein, ils produisent beaucoup moins d'électricité avec du charbon depuis quelques années, de même depuis 2023, finalement. Et parce que en réalité, ils recourent, ce qu'ils faisaient pas auparavant, hein, dans les mêmes proportions en tout cas, ils recourent beaucoup plus aux importations d'électricité, donc d'électricité nucléaire de France. Hein, c'était pas le cas en 2022 pour les raisons qu'on sait, c'est que nos réacteurs n'étaient pas disponibles. Mais depuis 2023 et l'année dernière, c'était la même chose. Moi j'avais jamais eu ça. Il y a de très grosses quantités d'électricité qui sont importées par l'Allemagne, donc ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Donc c'est comme ça que quelque part ils ont aussi réussi à baisser, à effectivement se passer du nucléaire et à diminuer fortement le charbon.
Annette Lensing, en avril 2024, la presse allemande révélait ou affirmait, je ne sais pas dans quelle mesure ça a été confirmé, que des hauts fonctionnaires avaient délibérément ignoré ou falsifié des rapports d'expertise pour accélérer la fermeture des centrales. C'est un de ces scandales aussi qui ont mis les Verts dans une fâcheuse posture. Qu'est-ce qu'on en sait exactement de ce qui s'est passé et en quoi ça implique des Verts?
Alors ça implique effectivement est mis en cause ici donc le ministère de Robert Habeck, et effectivement donc ce sont des donc il y a eu une bataille judiciaire donc qui s'est quand même tenue sur un an et demi, au terme de laquelle donc un journaliste du magazine berlinois Cicero a indiqué que il y avait eu des falsifications ou en tout cas des rapports d'expertise avaient été ignorés donc pour accélérer la mise à l'arrêt des dernières centrales nucléaires. Donc il est évident que ces révélations ont nui à l'image des Verts, ont alimenté les critiques dont on parle tout au long de l'émission, et c'est vrai que ça tombe sur un climat sociétal qui, et là encore ça peut paraître paradoxal pour l'Allemagne, qui est plutôt qui considère plutôt que la décision d'arrêter les dernières centrales nucléaires dans un contexte de crise était une erreur. Donc on a quand même près de 60% des Allemands qui sont de cet avis. Et c'est aussi un argument qui est repris par les conservateurs. Donc tout à l'heure, quand vous parliez des éoliennes, cela m'a fait penser aussi à Friedrich Merz, qui est le candidat des chrétiens démocrates, qui considère que les éoliennes sont des technologies de transition et qu'on pourrait un jour démonter parce qu'elles sont laides dans les paysages allemands. Et il a également donc qualifié la mise à l'arrêt du nucléaire comme un acte purement idéologique et une lourde faute stratégique. Donc c'est-à-dire que le débat du nucléaire, même s'il semble achevé en Allemagne, refait surface. Et refait surface dans un contexte effectivement compliqué où malgré des avancées qui ont été faites, la transition n'est pas encore actée, effectivement.
Et avec peu de chance aussi qu'on puisse se diriger vers une coalition entre CDU et Verts, parce que la CSU, notamment la branche bavaroise de la CDU, a dit qu'elle refusait catégoriquement ce genre d'alliance. Et on entend Annette Lensing dans les positions de Friedrich Merz aussi que c'est très compliqué. Les industriels aussi, et notamment l'automobile, demandent vraiment à freiner des cas de fer la transition. On en parle juste après ce groupe berlinois, Kulša Kandela.
Geht unter, auch bei uns ist Party, Halligalli. Alles im Eimer, doch wir hüpfen wie bei Dalli Dalli. Jeder sagt, das Klima ist eine Riesenkatastrophe. Doch bald brauchen wir nur noch Bikini und eine Badehose. Ich will mehr Fastfood fressen, wer braucht schon Regenwald, solange mein Konto voll ist und für mich noch Luft zum Leben bleibt. Alle sind Hammer drauf, keiner braucht mehr Angst zu haben. Keiner wird mehr krank, weil wir eh schon jede Krankheit haben. Und fliegt das Kraftwerk in die Luft, fängt jeder an zu strahlen. Hey, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Unser schönen neuen Welt. Ab heute bleibt nichts wie es war. Alles wird auf den Kopf gestellt. Herzlich willkommen, herzlich willkommen. In unser schönen neuen Welt. Was morgen wird, ist scheißegal. Wir feiern, bis alles zerfällt.
Überall sind Kameras, was für eine Riesenshow. Egal wer meine Daten hat, ich hab mein eigenes Video. Dank Überwachungsstaat kann ich jetzt selig schlafen. Jeder hat nen Chip im Kopf, liegt im Bettchen, zählt die Schafe. Alle sind fröhlich, haben ihr Botox-Lächeln aufgesetzt. Fett abgesaugt und weg, die Nase sitzt jetzt auch perfekt. Wir können so viel aus uns machen, auch für kleines Geld. Brust raus, Bauch rein, schön wie aus dem Ei gepellt. Aufgestellt in Reihe und Glied, ein Hoch auf unsere heile Welt.
Hey, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Schönen neuen Welt. Ab heute bleibt nichts wie es war. Alles wird auf den Kopf gestellt. Herzlich willkommen, herzlich willkommen.
Tout le monde dit que le climat est une catastrophe énorme, mais maintenant tout ce dont nous avons besoin c'est d'un bikini et d'un maillot de bain. J'ai envie de manger plus de fast-food. Faisons la fête jusqu'à ce que tout s'effondre. C'est grosso modo ce que dit ce groupe caustique, donc berlinois, Kool Shakandela, dans sa chanson Schöne Neue Welt, Beau Nouveau Monde, diffusé en 2009. En Allemagne, la transition énergétique dans le rouge. Nous parlons de ce non-sujet de la campagne pour les élections du 23 février et des Verts en moins bonne posture cette année qu'ils ne l'étaient il y a 4 ans. Critiqués de toutes parts pour les mesures environnementales prises quand ils étaient dans la coalition, les industriels notamment leur reprochent d'avoir voulu aller trop vite.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
En pleine crise énergétique depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, l'industrie allemande et tout particulièrement le secteur automobile plaide aujourd'hui pour un allègement de la feuille de route de la transition énergétique. Bonjour Jacques-Pierre Goujon.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur des universités, directeur de recherche à l'IRIS, directeur de l'Observatoire de l'Allemagne, ancien conseiller culturel en Allemagne, et vous avez écrit « L'Allemagne, un autre enjeu pour l'Europe » paru aux éditions Erol. Alors d'abord, quand Volkswagen annonce la suppression de 35 000 emplois en Allemagne, ou l'équipementier Continental, la fermeture de 5 usines, 580 nouveaux emplois menacés. Est-ce que les directions de ces entreprises justifient explicitement ces décisions par le coût de l'énergie, les mesures environnementales et autres ?
Alors, ce n'est qu'une partie des raisons, hein, pour être franc, parce que Volkswagen connaît des difficultés bien avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Hein. Il y avait déjà des interrogations sur des restructurations possibles. L'automobile allemande n'a pas réussi à accompagner aussi le mouvement vers l'automobile électrique, hein, quelles que soient les marques d'ailleurs, hein, Volkswagen, BMW, etc., Daimler, bon. Et donc ça, c'est un premier sujet. Bon. Le deuxième sujet, alors, qui est très important et qu'il faut évidemment évoquer, c'est le prix de l'énergie. Hein. Pour que les gens aient un aperçu, bon, sans vouloir vous assommer avec des chiffres, le prix d'un kilowattheure, bon, pour dans l'industrie, hein, en Allemagne, c'est 23 cents, hein, et en France, on est à 17. Oui, donc il y a quand même une sacrée différence, et la moyenne de l'UE, c'est 18. Bon, donc l'Allemagne souffre effectivement, hein, notamment depuis la guerre en Ukraine, d'un renchérissement du coût de l'énergie, ce qui pénalise les entreprises que l'on dit énergivores. Bon, évidemment l'automobile en premier lieu, mais aussi la chimie, l'industrie du verre, métallurgie, etc.
Des entreprises qui devaient bénéficier, ou des secteurs même, d'un plan de soutien lancé en mars 2024 par le gouvernement. Le gouvernement l'appelait le contrat carbone pour la différence, pour leur permettre de modifier leur technique de production. En quoi ça consiste? Surtout, jusqu'où a-t-il été mis en place ce contrat carbone pour la différence?
Alors en fait, c'est une aide. Hein, donc ce n'est pas une subvention classique, c'est une aide destinée donc au secteur secteur énergivore. Donc ça a commencé par ArcelorMittal, dans la région de Hambourg, qui a donc signé, parce que c'est signé avec le gouvernement fédéral. Il s'agit d'accompagner donc ces entreprises sur plusieurs années, en leur accordant donc une forme sous forme de crédit, en fait, remboursable, une fois que leur engagement en faveur d'une production d'énergie verte, serait pour eux rentable. Donc ça peut être sur 10 ans, par exemple. Donc ça laissait aux entreprises de la visibilité dans leur stratégie. C'est pour ça que certaines se sont montrées très intéressées. Bon, alors ça pouvait commencer. Alors il fallait diminuer la production de CO2 de 60% sur les 3 premières années et 90% sur les années suivantes jusqu'à 10 ans.
Donc il y a une première phase de 4 milliards qui a été mise entre parenthèses quand la coalition a implosé en novembre ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un suivi quand même de cette politique ?
Bon, il y a une suivi notamment pour les entreprises qui ont commencé très tôt. Le groupe dont je parlais sont les premiers signataires. D'ailleurs, le ministre s'était déplacé lui-même, puisqu'en Allemagne, le ministre de l'économie est aussi celui de la défense du climat, donc Robert Habeck, candidat pour les Verts, il était allé lui-même sur place. Donc ça, c'est signé pour ce cas. Bon, pour les autres, ce sera évidemment trop juste, parce que la coalition a sauté. Alors ça, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que, d'ailleurs, les industriels, ce qui est très rare en Allemagne, on ne l'a pas beaucoup souligné en France, pas suffisamment en tout cas, ont protesté, ont défilé dans la rue. Certaines grosses PME à Berlin ont organisé des manifestations en disant « Mais qui s'occupe de nous dans tout ça ?»
C'est rare, ça, que les grosses entreprises. Les grosses PME,
c'est quand même important, soient elles-mêmes allées dans la rue, enfin leur patron, je dis, en disant, mais voilà, tout ça c'est bien gentil, mais le monde politique s'intéresse-t-il à nous ?
Avec tous les faits cascades aussi, tous les sous-traitants qui sont concernés.
Avec tous les faits cascades, donc ça c'est considérable. Puisqu'on était sur l'industrie automobile, il faut savoir que l'industrie automobile, c'est 180 000 emplois en Allemagne. 14% de l'ensemble de l'emploi industriel. Donc c'est énorme.
Jacques-Pierre Goujon, depuis 3 ans maintenant que dure la guerre en Ukraine, cette guerre en Ukraine avait décidé l'Europe à se passer du gaz russe. Comment l'industrie allemande s'est adaptée ? C'est-à-dire, la transition a été brutale ou quand même le gouvernement a essayé de chercher des solutions petit à petit que les entreprises qui payent le plus cher ne soient pas trop affectées.
Il faut savoir quand même, pour le gaz, 55% du gaz allemand provenait de Russie. Donc c'était énorme. Et 36% pour le pétrole. Donc c'était une dépendance considérable. Alors tout de suite, là, il faut reconnaître, le chancelier a pris les choses en main et il a développé, avec son ministre de l'économie, ce que l'on a appelé une diplomatie énergétique. Il est allé dans le monde entier pour trouver des alternatives. Canada, Qatar, Arabie Saoudite, et dans tous ces endroits, des contrats ont été signés sur le long terme, pour progressivement...
C'était le même prix ?
Non. C'est pas le même prix, évidemment. Donc ça fait partie du problème. C'est pour ça qu'il y a eu un renchérissement aussi du coût de l'énergie. La Norvège, les États-Unis, plus de gaz liquéfié. La construction, dans le nord de l'Allemagne aussi, des installations pour pouvoir accueillir ce gaz liquéfié. On ne peut pas dire qu'il y ait eu une passivité dans ce domaine. Mais évidemment, le coût n'a pas beaucoup diminué. D'où ces mesures qui ont été proposées. D'ailleurs, dès 2023, il y a eu un paquet de 200 milliards d'euros destiné en partie aux ménages, mais aussi aux entreprises. L'idée étant de plafonner à un moment le coût de l'énergie. Et donc, une partie de ces mesures ont été lissées, remises en cause pour des raisons budgétaires. Et donc, c'est ce qui explique le mécontentement du monde industriel, notamment automobile.
Alors aujourd'hui, en période d'élection, que demandent les industriels et comment leurs inquiétudes sont-elles prises en compte par les différents candidats ? Est-ce que c'est un sujet de campagne ?
Alors c'est un sujet de campagne, puisque ça a des conséquences économiques. Donc on a parlé de Volkswagen. Il y a Bosch, vous avez évoqué Continental, mais il y a Bosch aussi qui a annoncé des fermetures. Ford, parce que le site de Ford Europe est en Allemagne, donc eux, ils ont annoncé 4000 suppressions d'emplois, dont 2900 en Allemagne. Donc ça fait un peu tache d'huile. Et même la chimie, BASF, le patron a dit, je réfléchis à aller aux États-Unis parce que, voilà. Alors, par rapport aux chiffres que je vous donnais, c'est intéressant, ça parle, je pense, aux gens. Donc je vous disais, le coût en Allemagne du kilowattheure, aux États-Unis, c'est 8 cents. Vous voyez ? Donc, et évidemment, bon, l'industriel, il a tendance à regarder le coût, hein, et les offres faites pas seulement par Trump, hein, mais évidemment par son prédécesseur. Hein, n'oublions
par
pas
Joe Biden qui a hein, mis en place un programme de subventions.
Absolument, absolument. Fait que il y a des interrogations de délocalisation. Hein. À l'heure actuelle, 37% des industriels s'interrogent sur une possible
délocalisation, et notamment aux États-Unis.
Voilà, notamment aux États-Unis.
Pour conclure, Jacques-Pierre Goujon, le discours qui domine, c'est quoi ? C'est il faut arrêter la transition ou il faut la ralentir chez ces industriels ?
Alors, il faut la ralentir. C'est le rythme qui pose problème. Hein, c'est le rythme qui pose problème. Alors, ceci étant, l'Allemagne a de bons chiffres, hein, il faut savoir, parce que en 2023, elle a beaucoup diminué sa production de CO2, hein, donc tout le monde s'en réjouit, mais évidemment, pour l'industrie, c'est une difficulté. Et il réclame également une véritable politique d'accompagnement. Hein. Par exemple, réduction fiscale, enfin, il faut qu'il y ait un véritable plan sur le sujet.
Merci beaucoup Jacques-Pierre Goujon. L'Allemagne, un enjeu pour l'Europe. Votre livre a paru aux éditions Erol. Je voulais faire réagir peut-être d'abord Michel Dehaye sur ce qui a été dit sur ces entreprises allemandes qui délocalisent notamment aux États-Unis, soit pour bénéficier des aides à la transition vers l'électrique, soit pour bénéficier de gaz moins cher. Une certaine absurdité quand même à déshabiller Paul pour habiller Jacques. Michel Dehaye.
Oui, bah, c'est, je dirais pas mieux. En fait, il y a BASF, j'ai vu aussi, investissait en Chine. Hein, ils sont présents depuis longtemps. Ils construisent une usine de, c'est un investissement de 10 milliards de dollars, enfin d'équivalent de dollars, en Chine, hein, dans le sud de la Chine, pour des raisons un peu équivalentes. Et c'est quand même un vrai problème si l'industrie allemande, qui jusqu'à présent, finalement, avait bien résisté depuis les années 2000, ça se voyait d'ailleurs à travers sa consommation d'énergie, qui est finale, hein, qui était restée parfaitement stable depuis la fin des années 90 jusqu'en 2019. Alors, si effectivement elle se délocalise dans d'autres régions, si vous réfléchissez en termes d'impact, comment je dirais, d'émissions CO2 induites, hein, puisque là, à ce moment-là, vous ne produisez de moins en moins en Europe et vous produisez plus aux États-Unis, en Chine ou dans d'autres continents pour des marchandises qui serviront ensuite, qui devront être importées en Europe. Enfin, le bilan carbone, il est finalement désastreux de cette évolution.
Alors, Annette Lensing, pour conclure, quand Robert Habeck, ministre de l'Environnement et de l'Économie, aujourd'hui candidat des Verts à la chancellerie, a présenté ce plan de soutien dont on parlait avec Jacques-Pierre Goujon pour verdir l'industrie. Il a dit que l'Allemagne devait atteindre les objectifs climatiques tout en maintenant la production. Est-ce que c'est un débat vraiment qu'il y a aujourd'hui chez les Verts, avec certains qui diraient mais non, il faut simplement ralentir la production, voire désindustrialiser si on veut y arriver.
C'est un... Alors, dans la campagne actuelle, je dirais que la question n'est pas au premier plan, en tout cas chez les Verts. Après, c'est une question qui effectivement a le potentiel de raviver les tensions au sein des écologistes, effectivement entre ceux qui veulent poursuivre donc la stratégie de Robert Habeck, qui cherche vraiment le dialogue aussi avec les milieux industriels. En tout cas, c'est ce qu'il a montré donc tout au long du gouvernement feu tricolore, et voilà, et les opposants voilà, en faveur d'une désindustrialisation plus radicale. Mais je dirais qu'en tout cas, dans la campagne actuelle, ce n'est pas un sujet central.
Robert Habeck, qui fait partie de ceux qui, au sein des Verts, veulent au contraire avoir la base la plus large possible dans la société allemande, ça fait débat dans le parti, et ça nécessite des compromis. En effet, Robert Habeck est critiqué aussi pour ça en interne, même si on parle plus souvent de son physique de Brad Pitt, et là-dessus je m'inscris en faux. Merci beaucoup Annette Lensing et Michel Dehaye d'avoir été avec nous respectivement dans les studios de ICI Armorique à Rennes et d'ICI Sud-Lorraine à Nancy. Merci à Mégane Bélanger et à Quentin Olivier qui vous ont reçu dans leur studio. Dans un instant, la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et un fil rouge ce matin, Catherine, la jeunesse, vous nous emmenez en Ukraine tout d'abord.
1085e jour de guerre, suivi en direct par Medusa, média indépendant russe. Les efforts diplomatiques s'accélèrent avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, souligne la Süddeutsche Zeitung en Allemagne, pays où le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer vendredi le vice-président américain J.D. Vance, l'un des plus hostiles à la Maison-Blanche, à toute aide pour Kiev. Et en amont, le président ukrainien accorde une longue interview au Guardian pour parler de l'avenir de son pays, de la paix. Volodymyr Zelensky y évoque d'ailleurs moins la morale et les risques géopolitiques que du business, souligne New Voice of Ukraine, des arguments financiers pour mieux se faire entendre de Donald Trump. Non seulement le président ukrainien se dit prêt à un échange de territoire avec la Russie, mais il propose aussi aux entreprises américaines des contrats pour reconstruire l'Ukraine, un accès prioritaire aussi pour les États-Unis aux terres rares ukrainiennes. Kiev redoute tout règlement du conflit qui ne comprendrait pas d'engagement militaire comme une adhésion à l'OTAN ou le déploiement de troupes de maintien de la paix, estimant que sans cela, eh bien, le Kremlin pourrait bien préparer une prochaine attaque, explique New Voice of Ukraine. Et ce sont peut-être de jeunes soldats ukrainiens, les cadets, qui tiennent l'avenir du pays entre leurs mains, estime le Guardian. Dans les colonnes du journal britannique, un photoreportage nous emmène dans un internat de Kiev où des jeunes de 16 à 18 ans passent la matinée à étudier, comme d'autres lycéens, les maths, la physique ou l'histoire. L'après-midi, ils apprennent les bases de la stratégie militaire, explique le Kiev Independent, qui reprend également une série photo du Vogue Ukraine consacrée à la jeunesse intrépide de l'Ukraine. Pas de téléphone portable au lycée militaire Bohun. La vie des cadets est strictement organisée, réglée comme leur marche au pas. Yevhen, 16 ans, rêvait depuis tout petit de rejoindre l'école, raconte le Guardian. Son grand-père, général décoré, lui avait donné l'exemple. Des générations de sa famille ont également servi comme artilleur, sous-marinier. Mais Yevhen, lui, veut devenir pilote de chasse. L'adolescent, qui fait des tractions sur une barre lors d'un rare moment de temps libre, pourrait s'entraîner prochainement sur des F-16 néerlandais ou danois, explique le Guardian. C'est d'ailleurs sur les jeunes qui savent parler anglais que les États-Unis recentrent leur formation de pilotes ukrainiens pour les F-16, indique le Wall Street Journal et le Kiev Post. Les cadets, 600 élèves, dont une cinquantaine de filles, apprennent aussi à Kiev à mettre des masques à gaz en prévision d'une éventuelle attaque russe, montre le Guardian. Et ce ne sont pas que des exercices de préparation, alors que les attaques de drones sont fréquentes à Kiev, rappelle le Guardian. Chaque nuit, ou presque, les cadets ont 2 minutes pour s'habiller et courir vers un abri anti-bombe. Cet internat est considéré comme une cible militaire par la Russie.
Et pendant ce temps, la Russie prépare les enfants ukrainiens à faire la guerre contre leur propre pays.
C'est ce que dénonce Radio Free Europe, Radio Liberty, radio financée par le Congrès des États-Unis. La Russie utilise une organisation de jeunesse militariste, Younarmia, pour préparer donc des Ukrainiens à rejoindre les rangs russes. Moscou a ouvert la première branche de Younarmia dans les territoires occupés d'Ukraine, en Crimée, quelques mois après la création de l'organisation en 2016. Et puis en janvier 2022, un mois avant l'invasion globale de l'Ukraine, Younarmia comptait 29 000 membres, rien qu'en Crimée, selon le ministère russe de la Défense. Des écoles transformées par exemple en centres d'entraînement militaire pour apprendre à remonter un fusil AK-74. Certains de ces cadets ont ensuite combattu contre leurs compatriotes ukrainiens et sont morts pour la Russie. Les autorités ukrainiennes accusent les dirigeants russes de faire de la propagande de l'enrôlement de civils, ajoute Radio Free Europe, Radio Liberty. Le chef de Younarmia dans la région de Zaporijja est accusé par Kiev d'enlèvement massif et de transfert forcé d'enfants ukrainiens vers la Russie.
Enfin, aux États-Unis, Catherine, on en sait plus sur les jeunes qui aident Elon Musk à couper dans les budgets pour le compte de Donald Trump.
Dans cette offensive vertigineuse contre l'administration fédérale, écrit le New York Times, 6 visages, 6 profils se sont détachés, de jeunes ingénieurs au visage poupin, selon le quotidien indien The Economic Times. Âgés de 19 à 24 ans, ils purgent les sites web fédéraux, exigent l'accès aux systèmes internes, raconte le New York Times, munis de sacs à dos remplis d'ordinateurs portables. Ils sont arrivés la semaine dernière au siège de l'USAID, l'agence de développement, pour fermer ce bureau. Accès également aux données personnelles sensibles, aux informations de paiement de dizaines de millions d'Américains, ajoute le Guardian. Des jeunes fraîchement sortis de l'université ou du lycée, explique Wired et CNN.
They are either recent high school or recent college graduate, all with ties to either Musk-owned companies or Peter Thiel-owned companies.
Tous sont liés à des entreprises appartenant à Elon Musk ou Peter Thiel. Le fondateur de PayPal avec Elon Musk, rappelle la journaliste de CNN. L'un de ces jeunes a fait un stage chez SpaceX, un autre chez Neuralink, qui appartient également à Elon Musk. Ces jeunes ingénieurs demandent par exemple une fiche d'information sur la productivité des fonctionnaires fédéraux, ce qui rappelle ce qu'avait fait Elon Musk lors de la prise de contrôle de Twitter. L'un de ces 6 codeurs engagés par Elon Musk avait démissionné la semaine dernière après que Wired et le Wall Street Journal avaient retrouvé ses tweets racistes, d'autres qui vantaient l'eugénisme. Ce jeune homme a été réintégré finalement vendredi par Elon Musk, rappelle le Guardian.
Merci beaucoup Catherine Dutu.